A du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, les déchets sont un fléau sanitaire et visuel qui pollue notre quotidien quand ils sont mal gérés. C'est le cas dans de nombreuses villes africaines où leur quantité explose au rythme de l'urbanisation. Pourtant, il existe de nombreuses initiatives porteuses de solutions. La plateforme Ressources, créée en 2013 pour les mutualiser, a tenu un atelier à Lyon, dans le sud-est de la France, cette semaine. L'occasion de découvrir qu'il y a de l'or dans nos poubelles. On en parle avec nos invités tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Pripyat se trouve à moins de 3 km du réacteur accidenté. C'était une ville de 48 000 habitants, construite spécialement pour les ouvriers de la centrale. L'accident s'est produit dans la nuit. Au matin, la population ne s'est aperçue d'aucune anomalie. Et les habitants de Pripyat commencent leur journée comme si de rien n'était. La radioactivité est mesurée, mais aucun ordre d'évacuation n'est lancé. Les taches blanches, sur l'image, sont provoquées par la radioactivité qui traverse la chambre noire de la caméra et voile la pellicule. Elles indiquent la violence des rayonnements qui s'abattent sur la ville. L'ordre d'évacuer a été donné 2 jours après l'accident. Le responsable des autorités s'en est expliqué plus tard. Les instructions précises avaient été annoncées, fermer les fenêtres, rester dans les maisons. Par conséquent, pour nous, l'irradiation de la population a été négligeable. Une légèreté coupable.
C'était le 26 avril 1986 à 1h24 du matin. Le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, en service depuis 1983, explose accidentellement lors de la réalisation d'un essai technique. L'énergie libérée par l'explosion entraîne l'émission brutale dans l'atmosphère jusqu'à plus de 1200 mètres de hauteur de produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur nucléaire. Les rejets se poursuivront jusqu'au 5 mai. Au total, ce sont près de 12 milliards de becquerels qui en 10 jours partent dans l'environnement, soit 30 000 fois l'ensemble des rejets radioactifs atmosphériques émis en une année par les installations nucléaires alors en exploitation dans le monde. Ce fut l'accident de Tchernobyl, mais la catastrophe, elle, continue. Et c'est pour lutter contre l'oubli de ces victimes qu'une opération humanitaire est organisée par 2 associations, Enfants de Tchernobyl Bélarus et Photographisme. Tchernobyl Forever, un coffret contenant un livre et un DVD, vient d'être publié à 3000 exemplaires. Bonjour Alain Gilles Bastide.
Bonjour.
Vous êtes photographe, vous êtes allé en 2006 dans la zone évacuée et sinistrée de Pripyat en Ukraine. Et ce sont ces photos, entre autres, que vous publiez accompagnées de textes d'experts dont vous faites partie. Vladimir Tcherkov, bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous, Alain Gilles Bastide, quel est l'objectif de la publication de ce livre DVD?
L'objectif de la publication est clairement de créer des ressources pour les enfants victimes des radiations, des radionucléides en Bélarus, qui sont complètement abandonnés à eux-mêmes. Et il y a eu une association qui a été créée par Vassili Nesterenko peu après l'explosion, et qui, indépendamment, s'occupe du suivi des enfants, de mesurer les enfants, de leur donner de la pectine quand c'est nécessaire, enfin d'organiser des échanges, etc., etc. Et cette association n'a aucun soutien, bien sûr, du gouvernement, ni pire de l'AIEA et de personne. Donc voilà, nous avons décidé de faire un ouvrage commun qui puisse générer des ressources pour ces enfants-là. Il y en a 500 000 en tout, ça fait quand même du monde, et Belrad s'en occupe de 25 000.
Voilà, l'Institut Belrad, donc, qui a été créé en 1990. Alors, les auditeurs ne sont pas avec nous dans le studio, mais je tiens à dire que vous parlez des enfants de Tchernobyl en ayant votre propre fils sur les genoux, Noé, que l'on salue, qui joue avec sa girafe sur vos genoux. Voilà, c'est ça, la vraie vie. Alors, Vladimir Tcherkov, vous êtes journaliste aussi. Vous avez réalisé plus de 70 documentaires dans votre vie, mais dont 5 sur les conséquences de Tchernobyl. Expliquez-nous ce que vous avez découvert quand vous êtes allé sur place.
Et j'ai eu la chance de connaître la langue russe.
C'était en quelle année ?
C'était en 90. Et j'ai tout de suite été approché dès l'aéroport par un physicien jeune avec caméra qui collaborait déjà avec Greenpeace. Ce qui m'a ouvert immédiatement les contacts que les collègues soviétiques auraient évités pour connaître la réalité de ce qui se passe.
Et qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant sur place?
Alors, j'ai découvert progressivement, parce que je ne suis ni physicien, ni médecin. C'est en écoutant les gens, j'ai découvert la gravité des conséquences déjà qui apparaissaient sur les habitants des territoires contaminés, notamment surtout les enfants qui sont les plus fragiles pour les radioactivités. Le déni mondial, la désinformation délibérée de cacher les conséquences sanitaires de Tchernobyl, parce que ça mettait en question radicalement la légitimité que les centrales nucléaires existent. Ce tabou, cette interdiction de dire la vérité sur les conséquences perdure aujourd'hui encore. Quelqu'un a dit, je crois que c'était même l'académicien Yablokov, que Tchernobyl, c'est un arbre qui pousse. À savoir, on dit maintenant, 28 ans sont passés. Tchernobyl, c'est dans le passé, ne l'oublions pas. La catastrophe de Tchernobyl, c'est actuel. Il y a eu un accident technologique, industriel. C'était la graine à partir de laquelle pousse cet arbre en s'aggravant d'année en année au point de vue des conséquences sur tous les organes vitaux des vivants, à cause de l'ingestion de faibles doses du césium-137 qui est répandu en énorme quantité dans les territoires où c'est retombé.
Alors aujourd'hui, ça concerne combien de personnes?
Le chiffre, alors que l'OMS, l'AIA, les agences de l'ONU qui cachent Tchernobyl parlent, au début c'était 32 morts, ensuite une quarantaine de morts, 4000 cancers possibles à la thyroïde, et c'est tout. Alors que ce qui résulte des travaux dont je parle, que Yablokov a réuni dans ce livre, il est question de 980 000 décès attribuables, suivant des recherches scientifiques, à la catastrophe de Tchernobyl.
Alors Alain Giblastide, vous, à travers vos photos, vous êtes allé sur la zone des conséquences de Tchernobyl en 2006. Vous dites, on a enterré Tchernobyl, on a enterré la Terre, on a enterré des villes entières.
Oui, après la catastrophe, il y a eu un certain nombre de... des relevés de radioactivité sur le terrain ont ciblé des villages, des kolkhozes qui étaient devenus inhabitables. Et donc, il a été décidé de les enterrer. Pourquoi les enterrer? Parce que les gens ne voulaient pas partir, ou s'ils partaient, ils y revenaient. Parce que, c'est pas le paysage d'une guerre traditionnelle avec des bombes et des ruines, etc. Ils comprenaient pas, parce qu'ils voyaient rien autour. Ils disaient, ils voulaient revenir là. Donc pour les empêcher de cultiver ou de revenir dans le village, on les a enterrés. Donc le procédé, il y en a eu 1200 et quelques de nommés pour être enterrés. Il y en a eu 700 qui ont été enterrés en Ukraine, en Bélarus et en Russie.
C'est ça qui est terrible, c'est ce silence finalement. C'est-à-dire que tout a été fait pour que on ne sache rien. Par exemple, on découvre dans le livre que les premières personnes qui sont arrivées dans les maisons des victimes potentielles de l'accident ont demandé tout de suite à récupérer les caméras, les appareils photo, etc. Parce qu'ils voulaient surtout pas qu'il y ait de traces.
Oui, c'était la première mission de l'armée que j'ai appelée dans le livre Interdit de mémoire. Effectivement, la première mission des soldats était de confisquer les appareils photo, les petites caméras de l'époque qui auraient pu filmer l'explosion en elle-même, enfin ce qui s'est passé suite à l'explosion, donc éliminer toutes ces images-là et ne pas permettre d'en faire d'autres. C'est parce que ensuite, à la suite de l'explosion, il y a eu l'évacuation de Pripyat, 50 000 personnes. C'est une ville qui a été prise et évacuée, éliminée en 36 heures, quoi. Vidée de ses habitants en 36 heures. Voilà, et c'est en même temps, au passage, c'est le premier crime de masse du nucléaire civil, puisque ces gens-là ont été exposés pendant 36 heures à des doses de radioactivité auxquelles ils n'auraient surtout pas dû être exposés.
Mmh. Exactement. Alors aujourd'hui, quelle est la situation sur place? Parce que si vous sortez ce coffret DVD, bon, c'est évidemment, on l'a bien compris, pour permettre à l'Institut Belrade qui s'occupe des enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl d'avoir de l'argent, parce que ben, ça passe aussi quand même par là. Mais quelle est la situation? C'est, comme vous le disiez, Vladimir Tcherkov, ça continue, la catastrophe de Tchernobyl n'est pas finie.
Oui, justement, la catastrophe est actuelle. Dès le début, des chercheurs ont commencé à réagir contre le blocage de l'information, d'abord par l'Union soviétique, et ensuite, quand l'URSS s'est écroulée, c'est le lobby mondial de l'atome qui a pris en main et qui a géré, en commençant dès le début, ils ont épaulé, ils ont aidé Gorbatchev à combattre la vérité qui émanait des scientifiques sérieux et qui s'en sont occupés. Et la scientifique généticienne Rosa Goncharova a immédiatement commencé, elle avait un laboratoire dans le cadre de l'Académie des sciences du Bélarus, a commencé à faire des recherches sur les campagnols des champs qui habitaient à 200 kilomètres de Tchernobyl, donc dans un territoire plus éloigné, et a découvert en 22 générations, pendant 10 ans elle a suivi, parce que les campagnols se multiplient beaucoup plus rapidement que les humains,
que c'est l'instabilité,
comment, les campagnes, c'est des souris, c'est des rats de campagne. Elle est arrivée jusqu'à la 22e génération en 10 ans de recherche pour constater que l'instabilité du génome s'aggrave et se complique d'une génération à l'autre, indépendamment du sol ou de l'alimentation contaminée. Dès la transmission génétique à partir des premiers géniteurs qui ont été contaminés, c'est ce qui attend nos héritiers humains.
Mais donc, les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, ça va durer...
Ça va durer un temps indéterminé. Le césium 137 disparaîtra à partir du moment de l'explosion au bout de 3 siècles. Et il y a le plutonium, ce sont des milliers d'années, suivant les territoires où il est retombé, etc. Tchernobyl, il n'y a pas eu de bombe, et c'était un incendie qui a éparpillé sur le sol une énorme quantité d'éléments radioactifs qui pénètrent dans l'organisme à travers l'alimentation des gens qui consomment les aliments contaminés. Ce sont de très faibles doses. À Hiroshima, par exemple, après la bombe, après une quinzaine de jours, on pouvait travailler sur le sol. Alors qu'à Tchernobyl, la contamination est là. Et c'est ça dont s'alimentent en ce moment les 500 000 enfants dont parle Alain Gilles, et que on essaye de aider à travers l'Institut Belrade qui a été créé par le physicien, le juste. Ils sont très peu les justes scientifiquement de haut niveau qui ont réagi contre cette espèce de tabou général pour sauver non pas les habitants mais l'industrie nucléaire.
Alain Gilles Bastide, dans votre livre, donc il y a beaucoup de récits, il y a des images inédites, il y a un DVD qui accompagne ce livre, c'est un coffret. On apprend de nouvelles réalités. Qu'est-ce que on peut découvrir qu'on ne savait pas avant?
Il y a quelques images qui montrent comment à Tchernobyl maintenant, enfin au village de Tchernobyl, qui a été lui aussi évacué presque entièrement, il reste là quelques parcelles nettoyées sur lesquelles travaillent les gens qui entretiennent, si on peut dire, la centrale, enfin, ou ce chantier, ce No Man's Land atomique. Dans les maisons qui sont reprises par le bois, tout a été récupéré, tout a été recyclé. Je raconte des anecdotes sur dans mon livre, où tout de suite après l'explosion à Pripyat, le pillage a commencé tout de suite. Et donc, on a commencé par piller ce qui était léger et transportable. Par exemple, des vêtements pour enfants, des petits doudous, etc.
Donc, ça veut dire que tout ce qui a été contaminé a circulé.
Voilà, a circulé. Et attrape les radionucléides. On sait qu'il y a des milliers d'enfants à qui ont acheté sur des marchés des doudous complètement contaminés.
En tout cas, on comprend bien à travers votre démarche aujourd'hui et vos témoignages à tous les deux, même vous, Vladimir Tcherkov, qui continuez à témoigner sur cette catastrophe, qu'il ne faut pas oublié Tchernobyl. Depuis Tchernobyl, il y a eu Fukushima, et pour autant, là aussi, on a du mal à avoir accès à l'information. On sent à chaque fois qu'il y a une catastrophe nucléaire qu'on essaye au maximum de faire en sorte que l'information ne circule pas. Et on continue à construire des centrales nucléaires dans le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Cela nous menace tous. L'État français commence à ouvertement faire des simulations et des recherches en suant sueur froide, parce qu'ils se rendent compte de l'ingérabilité d'une catastrophe à laquelle on s'attend en France. Vous avez 3 foyers extrêmement intenses sur la planète de ce genre de tragédie. La côte orientale de l'Amérique du Nord, l'Europe avec l'épicentre français qui est le plus virulent pour la quantité de centrales par habitant, et la côte est du Japon. L'hémisphère nord est bien servi. Et ça ne connaît pas de frontières.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Vladimir Tcherkov. Alain Gilles Bastide, donc je le rappelle, hein, votre coffret livre DVD Tchernobyl Forever est disponible où ?
Uniquement sur le site des enfants de Tchernobyl, Bélarus.
Merci à tous les deux d'être passés dans cette émission. Et évidemment, on mettra toutes les coordonnées pour que vous puissiez éventuellement vous procurer ce coffret livre DVD sur la page internet de l'émission www.rfi.fr.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Les lacs, les marais, les fleuves et les rivières sont les réserves d'eau douce de l'humanité et elles sont précieuses car elles ne représentent que 3% de l'eau disponible sur notre planète puisque le reste est salé. C'est donc pour les protéger que certains États ont créé dans les années 70 la Convention Ramsar. Elle est ratifiée aujourd'hui par 168 pays, dont 50 africains. Les représentants de 46 pays africains se sont réunis cette semaine à Hammamet en Tunisie pour parler des enjeux de la préservation de ces écosystèmes fragiles. Bonjour Paul Ouédraogo.
Bonjour Anne-Céphile.
Vous êtes le conseiller spécial pour l'Afrique de la Convention Ramsar. Alors tout d'abord, il faut rappeler que le continent africain abrite de nombreuses zones humides, même dans les pays les plus arides.
Tout à fait. L'Afrique abrite plusieurs zones humides. L'Afrique a déjà désigné 362 sites Ramsar, mais ces sites Ramsar couvrent plus de 40% de tous les sites Ramsar du monde. Donc l'Afrique héberge plusieurs zones humides, notamment les zones humides, les oasis, les sebka, dans les milieux vraiment sahéliens et désertiques. On retrouve également des forêts marécageuses également dans des parties qui sont relativement mieux arrosées, et puis des lacs, des mares, des marais. Et également, on retrouve des tourbières dans 2 ou 3 pays africains qui sont le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, je pense aussi un peu en Tanzanie. Et enfin, des mangroves qui sont des forêts de mangroves qui sont des zones humides côtières et des zones humides marines.
Quelles sont les menaces qui pèsent sur ces zones humides aujourd'hui ?
Il y a plusieurs menaces, mais la menace principale, c'est surtout l'industrie extractive qui actuellement est réellement en train d'endommager et de dégrader les zones humides. Et on peut noter également l'urbanisation mal planifiée parce que on installe les infrastructures urbaines dans des milieux qui sont des zones humides pour éviter des inondations. Et aussi, l'agriculture sous sa mauvaise exploitation endommage les zones humides.
Quelles sont les conclusions de votre semaine de travail à Hammamet ?
Nous avons pu intégrer les 3 piliers de la Convention dans ce nouveau plan stratégique en ce qui concerne l'utilisation rationnelle des zones humides, la désignation des sites Ramsar et la coopération régionale et internationale. L'Afrique a également obtenu un consensus en ce qui concerne les projets de résolution. Je pourrais citer la résolution sur la nécessité d'avoir un segment ministériel à l'intérieur de la Convention et la résolution sur la nécessité de créer un label d'accréditation des villes Ramsar.
Merci beaucoup, Paul Ouédraogo.
Merci bien.
Restez avec nous sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans quelques minutes, juste après le flash d'info, nous vous ferons découvrir des solutions innovantes pour gérer les déchets en Afrique. À tout de suite.